Bonjour, vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bienvenue dans l'univers enjoué et quelquefois un peu décalé de l'émission littéraire « Le lire et le dire ». Autant le dire tout de suite, mais l'émission peut être écoutée par des adultes et même conseillée aux parents, mais le produit final est destiné quand même aux enfants. Aujourd'hui, pour me soutenir, je suis tout seul, personne de l'équipe, mais je suis quand même bien entouré puisque j'ai deux invités, Laetitia Devernay, auteure et illustratrice. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Et puis Jean-Sébastien Blanc, qui dirige la maison d'édition Alzaban et qui est son principal auteur également, il faut bien le dire. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Alors on va commencer par Laetitia. Vous êtes illustratrice, vous avez fait une école en province.
Voilà, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg.
Oui, parce que vous êtes du coin ou
pas?
Non,
du tout.
Vous êtes parisienne?
Je suis parisienne et voilà. Je suis partie en fait à Strasbourg parce que l'atelier des arts déco justement formait des auteurs, illustrateurs et pas simplement...
D'accord, et pas du Perret à Paris?
Non, parce que du Perret c'est pareil, c'est plus vraiment ciblé autour de l'illustration alors qu'à Strasbourg on nous apprend à écrire et voilà, à cultiver notre imagination afin d'écrire des histoires.
D'accord, c'est l'École nationale supérieure des arts appliqués Olivier de Serres.
Alors ça, je l'ai fait juste avant parce que je pensais que je voulais être architecte.
Bon, il n'y a pas de ce métier.
Et puis après, du coup, je suis partie à Strasbourg pour être finalement illustratrice.
Vous avez été lauréate en 2006 du concours d'illustration. Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances vous avez concouru?
À nouveau, en fait, c'est un concours sur la narration muette. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, la narration muette, comme vous avez pu le voir, Diapason est totalement muet. Et du coup, ça me disait bien de travailler sur un concours qui proposait de faire une histoire qu'en images.
Bon. Donc, voilà. Et vous croyez quand même que c'est sympa pour moi de venir avec un livre où il n'y a pas d'illustration et on est à la radio aujourd'hui, hein, quand même. Bon, alors ce livre, il s'appelle...
Diapason.
Il s'appelle Diapason. C'est un livre où il n'y a pas du tout de texte.
Pas du tout de texte, ouais. Mais par contre, il y a une histoire.
Il y a une histoire. C'est un grand format. Quelle dimension à peu près?
Il est du fait...
Allez, 40 cm sur 15.
Voilà.
Hein, 40 cm en
longueur,
haut,
ouais.
Hein, sur 15. Il s'ouvre et à l'intérieur, tout le livre étant peut-être feuilleté page par page, mais également en accordéon, comme ça, en ouvrant.
Voilà, exactement.
Et alors, quelle était votre démarche?
Alors moi, je suis partie du coup de cette envie de raconter en images une histoire et puis de travailler sur le personnage du chef d'orchestre que je trouve vraiment charismatique comme personnage.
D'accord. Donc, voilà. Donc là, je vois des grands arbres et puis je vois un petit chef d'orchestre. Effectivement, il est en frac avec sa baguette.
Voilà.
D'accord.
Donc, je voulais raconter ce que pouvait faire un chef d'orchestre quand il n'était pas auprès de ses musiciens et comment il venait rechercher de l'inspiration et comment il venait... trouver son inspiration pour...
Se ressourcer.
Voilà, exactement.
Alors, c'est pas de la couleur, c'est... Comment on peut appeler ça?
C'est un travail de noir coloré et puis de gamme de blanc. On passe du coquille d'œuf au blanc très, très dense. Enfin, voilà, c'est des nuances de noir et de blanc.
C'est destiné à qui?
À tous.
À tout le monde. De 7 à 80, même 6, hein, 5 même d'ailleurs.
Voilà.
5 à 97 ans. Quelle est la genèse du livre? Comment vous avez eu l'idée de faire ça?
Je me suis interrogée sur moi, ce qui m'inspirait, et il s'avère que c'était la nature, enfin, comme beaucoup d'autres. Hein, Gaudi a beaucoup travaillé sur les formes, sur les feuilles, sur les méduses.
Oui.
Du coup, je me suis un peu posé cette question-là. On me transporte... En transposant comme étant ce chef d'orchestre et voir comment trouver de l'inspiration.
Et vous me dites que même pendant les études, vous y étiez déjà dans cette voie-là.
Oui, tout à fait.
Ah oui, ça c'est curieux.
C'est un livre en fait que j'ai réalisé durant ma dernière année à Strasbourg. Enfin, c'est mon projet de diplôme.
D'accord. Et alors, vous donnez des cours à des enfants?
Oui, j'anime des ateliers dans des bibliothèques.
De graphisme, de dessin?
De dessin. Oui, oui.
Est-ce que la finalité, c'est pas justement de rentrer dans une maison d'édition et de faire d'autres livres comme ça ou d'autres?
Ah bah oui.
Oui, bien
fait,
sûr.
Ouais.
Bon, alors, je lance un appel, messieurs les éditeurs, si vous avez besoin d'une graphiste, un très très beau livre.
D'une illustratrice.
Illustratrice graphiste. Bon, la maison d'édition, c'est La Joie de Lire.
Oui, c'est une très très belle maison genevoise.
genevoise, qui a un catalogue que je feuillette. C'est pour les enfants. Le prix du livre, 23 euros. Alors justement, puisqu'on parle de prix, vous avez eu un prix.
Oui, tout à fait. La Courrier organise la promotion en fait, des albums jeunesse, organise un concours et j'étais parmi les 5 gagnants du CJ Picture Book Award en Corée.
En Corée ?
En Corée, et puis également j'ai été sélectionnée pour l'Opéra Prima du Salon du Livre de Bologne.
C'est ouais, sympa
c'est
quand même. Hein
ouais, ouais, ouais.
Quels sont vos projets ?
Je réécris un bouquin, à nouveau une narration muette, que je pense faire à nouveau à la joie de lire, qui s'appellera Bebop, et qui est complètement dans l'univers du jazz, sur une course-poursuite entre un chat et un chien, etc. Donc voilà, je reste là-dedans.
Bon, bon, bon. Toujours la même collection, la même,
alors,
même format.
Ce diapason ne fait pas partie d'une collection, mais ce sera dans la même maison d'édition, mais sous un format totalement différent.
D'accord.
Voilà.
Ben merci Laetitia.
Merci à vous.
Merci bien. Alors j'interromps là notre conversation pour passer la parole à Clément Moutier pour une chronique que celui-ci a enregistrée pour nous. Alors Clément, je te passe la parole.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vous invite au théâtre du Lucernaire dans le 6e arrondissement à Paris. Je vous invite à passer une petite heure en compagnie de Marguerite Duras. Et c'est en cuisine que cela va se passer, car rien de mieux qu'une cuisine et qu'une table pour se livrer aux confidences. Parce qu'une cuisine, c'est le lieu de la convivialité, c'est le pouls d'une maison, où les mains affairées à peler, découper, râper, éplucher, on laisse ses pensées vagabonder. Asseyez-vous à la table familiale et écoutez Duras, magnifiquement interprété par Tania Torrens, plonger dans ses réflexions. La soupe aux poireaux, les listes de courses, les souvenirs de famille. Découvrez l'auteur d'Hiroshima mon amour tout simplement dans l'intimité d'une cuisine avec un transistor qui retransmet quelques vieux tubes. Car je cite, c'est là qu'il fait chaud et qu'on reste avec la mère qui fait la cuisine tout en parlant. La pièce est intitulée La maison et elle est tirée du chapitre d'un livre qui s'intitule lui-même La vie matérielle que Marguerite Duras a écrit en 1987. Le rôle principal est tenu par la ravissante Tania Torrens et la mise en scène est signée Jeanne Champagne. Je suis justement à la sortie du théâtre avec une personne qui vient d'aller voir la pièce et qui visiblement a été séduite, notamment par le jeu d'actrice de Tania Torrens.
Oui, j'ai beaucoup aimé en fait cette pièce. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre vu que on m'a offert la place. Mais aimant beaucoup cet auteur, j'ai été agréablement surprise par la performance de Tania Torrens qui interprète Marguerite Duras parfaitement, même jusque dans ses tics de langage et par ailleurs dans sa façon un peu brute de prononcer les mots.
Est-ce que vous aviez l'impression, avant cette pièce, de la connaître comme elle était aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. En fait, j'avais lu beaucoup d'entretiens. J'avais justement regardé notamment l'entretien avec Bernard Pivot et puis lu énormément d'œuvres d'elle. Et j'ai eu l'impression, effectivement, d'avoir Marguerite Duras en face de moi, tant physiquement que moralement.
Et un petit mot sur le décor. On voit une machine à écrire, une table avec des légumes. Ce décor presque nu vous a séduit aussi ?
Oui, mais en fait, ça représente tout à fait l'auteur, c'est-à-dire qu'on reconnaît à la fois la simplicité du décor comme la simplicité qui est inscrite dans ses œuvres, et puis le côté réflexif, c'est-à-dire que ce décor nu nous permet justement de réfléchir un peu plus aux mots et à leur portée, comme dans les œuvres de Marguerite Duras, finalement.
Bien, merci mademoiselle. Alors, je rappelle que cette pièce se déroule au théâtre Le Lucernaire, rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e à Paris. Voilà Jean-Claude, je vous rends l'antenne, à vous les studios, sur FPP 106.3, à bientôt.
Merci Clément, à la semaine prochaine. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 au cours de l'émission Le Lire et le Dire où nous recevons Laetitia Devernay et Jean-Sébastien Blanc. Et justement, Jean-Sébastien, c'est à toi. Allez.
Bonjour.
Bonjour. Alors Jean-Sébastien, je te recevais en 2008, je crois.
Oui, c'est ça.
Tout au début
de l'aventure
de ta maison. Alors faut dire d'abord que Jean-Sébastien est à la tête d'une maison d'édition pour les enfants.
Principalement pour les enfants,
pour les enfants
de 12 ans et maintenant aussi pour les adultes quand même, avec une nouvelle collection qui s'appelle Histoire d'en penser, où on essaye d'aborder un peu le public adolescent, 15-17 ans.
D'accord. Tu as commencé par faire des études de lettres modernes ?
Oui, tout à fait. C'est à cette époque-là que j'ai nourri le rêve de d'être à la fois auteur et aussi éditeur.
Oui, c'est ça, parce que c'était quand même auteur à la
fin. Voilà, je suis tout à fait schizophrène.
Oui, ben voilà. Fin de compte, t'es cerveau droit et cerveau gauche.
Oui, c'est ça.
Quand même, c'est le summum.
Ah, ouais. Parfois, dans certaines conversations, je demande aux gens, mais tu t'adresses à qui ? À l'éditeur ou à l'auteur ? Bon, enfin, je plaisante souvent avec ça, mais non, c'est vrai qu'il y a une dualité, c'est-à-dire que j'ai deux casquettes, à la fois auteur, principal auteur de la maison d'édition, et éditeur, c'est...
Oui. Enfin, quand on est dans une petite maison d'édition ou petite société, il faut aussi savoir faire le ménage, répondre au téléphone, etc.
Tout à fait, hein, comptable aussi.
Voilà, ben oui, oui, ah, oui, bien sûr. Alors au début, dans les histoires, tu as tâté du fantastique et du burlesque.
Alors ça continue.
Ça continue.
Ça continue.
Bon. C'est dans vraiment la vie courante aussi.
Oui.
Non, d'accord.
C'est de plus en plus fantastique et de plus en plus burlesque aussi parfois dans la vie.
Bon.
Mais la ligne éditoriale reste vraiment la même depuis le début, c'est-à-dire rêver, être dans le fantastique, dans le burlesque. Et quelles que soient les collections qu'on a lancées, c'est-à-dire la première histoire d'en rêver et maintenant Histoire d'antan, la collection de contes du Moyen-Âge, on reste vraiment dans le fantastique, dans le abracadabrantesque et aussi, si possible, dans le drôle, dans le comique, dans ce qui peut nous faire sourire, quoi.
Alors comment on devient auteur spécifiquement pour les enfants ?
Mais en fait, on ne devient pas. On a souvent ce débat, que ce soit sur des tables rondes ou dans des salons du livre ou des animations scolaires. On nous demande souvent, mais comment deviens-tu écrivain jeunesse ? La plupart des écrivains jeunesse, entre guillemets, répondent ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on ne l'est pas à la base, on ne se revendique pas forcément comme tel. On écrit et puis on met en scène pour la jeunesse. Pendant la phase d'écriture ou de conception du livre, on ne sait pas forcément à qui on va s'adresser. C'est au résultat final du livre qu'on voit quelle est la meilleure mise en scène possible et quel est le meilleur public possible. Et mon dernier titre, Heureux qui comme Ulysse, que j'ai intégré dans la collection 8-12 ans, histoire d'en rêver. Au départ, je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire au niveau des illustrations, au niveau de sa mise en page, sa mise en scène. Et c'est vraiment... au final, que là, je me suis dit, à la relecture, voilà, ça, c'est vraiment un livre qui ira typiquement dans cette collection et qui sera vraiment un livre jeunesse, quoi.
D'accord. Alors, par rapport à 2008, la collection s'est bien étoffée, là.
Les collections, ouais, ouais.
Les collections,
ouais, tout à fait.
Le catalogue de la société.
D'Alzaban.
Ah, D'Alzaban, ouais. C'est bien étoffé. On va parler des trois, quatre derniers.
Ouais.
Allez, on commence par celui-là. Histoire d'antan, les étonnantes aventures de Renard et de son compère. Isengrin, ah oui, Isengrin, oui, oui, absolument. Le roman du renard.
Voilà, en fait, c'est une adaptation du roman de Renard que on connaît ou on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, c'est un monument de la littérature médiévale et de la littérature française. C'est un, non, en fait, pas vraiment un roman, c'était un recueil d'histoires qui mettait en scène le goupil, ça s'est resté dans les expressions, le goupil, le malin, le renard, et... le loup, Isengrin, qui était son oncle à la base, mais aussi son ami. Alors en fait, le roman de Renard met en scène ces deux idiots. Je dis un peu deux idiots parce que toutes leurs aventures tournent toujours à la catastrophe. Ces deux lascars essayaient tout le temps de voler des poules, de pêcher, de voler des jambons aux paysans. Et ils n'y arrivaient jamais vraiment bien parce qu'ils se faisaient pincer, ils se faisaient courser par les paysans. Et c'est ce qu'on se racontait il y a 800 ans et qu'on a continué à se raconter pendant 800 ans dans les écoles en France... Et alors, moi, je suis en fait tombé dessus assez récemment, paradoxalement. J'ai trouvé, très objectivement, vraiment objectivement, avec un regard un peu d'adulte et d'ancien enfant, que la plupart des éditions soit étaient très bien illustrées, soit avaient des adaptations de textes absolument magnifiques. Mais je trouvais rarement des livres très équilibrés, quoi,
ouais.
Très équilibrés, avec une belle mise en page, beaucoup d'illustrations et un beau texte. Et je me suis dit, fais l'essai, voilà, on va essayer de faire l'essai. Et c'est le pourquoi de ce livre, avec sa dorure, son marque-page.
Justement, alors en dehors des qualités que tu viens de donner, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Histoire d'antan.
Ouais.
Et alors je vois un livre doré sur tranche quand même,
voilà,
Azette.
C'est rare.
On dirait un livre en cuir, patiné, il y a des enluminures. Et puis à l'intérieur également, les pages sont bistres,
ouais.
Les illustrations sont comiques.
En fait, on a essayé de faire à la fois un contenu vraiment burlesque, drôle, donc avec les illustrations comiques, le texte très enjoué, une mise en page également très dynamique. Et puis aussi, on a voulu faire un objet. Un objet qui rappelle vraiment le Moyen-Âge, le grimoire du Moyen-Âge. Alors, ça n'est pas une couverture en cuir, bien qu'on on l'avait envisagé au départ. Mais il y a une imitation. Il y a cette dorure sur tranche qui émerveille tout le temps les enfants quand ils le prennent en main.
Absolument. C'est un livre de bibliothèque.
Tout à fait. Voilà. C'est vraiment un des premiers livres qu'on garde précieusement dans sa petite bibliothèque ou sur son étagère.
Et puis alors l'autre, le deuxième de cette collection Histoire d'antan, La petite fabrique du mensonge et de la vérité, conte de Philippe Dalcrip, c'est ça ?
Absolument, illustré et adapté par
Adélaïde Lebrun.
Voilà.
Ça, t'as été chercher ça
En fait, j'ai pas été le chercher.
15e siècle ?
16e
siècle. 16e siècle.
J'ai pas été le chercher, c'est Adélaïde Lebrun elle-même, qui est une illustratrice de grand talent, assez portée sur le 16e siècle, qui m'a amené le projet, au départ, avec une quinzaine d'histoires de Philippe Dalcrip, et elle m'avait apporté des illustrations. Et je suis tombé vraiment en admiration, j'étais vraiment tout de suite adoré ce projet, mais en lui disant que on pouvait aller beaucoup plus loin, et en lui proposant de passer à plus d'une vingtaine d'histoires, et surtout, non plus 15 illustrations, mais près d'une soixantaine.
Mmh. Et ça, tu l'as réécrit, enfin adapté.
Donc c'est Adélaïde Lebrun qui signe à la fois...
Puisque ça doit être en vieux français,
absolument,
l'original.
Alors en fait, Adélaïde Lebrun signe les deux, hein, l'illustration et l'adaptation du texte, et elle l'a vraiment trouvé, je trouve, je pense, la note juste entre la fidélité au texte d'origine, et en même temps une certaine modernité qui fait qu'on peut le lire très facilement. Alors c'est plein de burlesque, c'est plein de fantastique, c'est un petit peu plus sophistiqué que le roman de Renard, c'est-à-dire que je pense qu'en dessous de 10-11 ans, c'est un petit peu difficile. En revanche, pour tous les lecteurs, jeunes lecteurs ou grands lecteurs, qui ont envie de redécouvrir le monde du fabliau, le monde du conte fantastique du Moyen-Âge ou de la Renaissance, c'est vraiment un régal. Voilà, c'est plein de poésie, c'est plein de vocabulaire très enjoué...
J'ai passé les livres à Laetitia. Alors Laetitia, oui. Vous avez feuilleté les deux là ?
Ouais, je suis en train de les feuilleter.
Alors qu'est-ce que vous en pensez au point de vue illustration ? On va dire que c'est bien entendu, hein, pas dire que c'est mal.
Oui, tout à fait. Alors,
non mais donnez-moi un vocabulaire entre les deux, parce qu'ils sont différents les deux. Hein.
Ouais, tout à fait. Il y a une illustration beaucoup plus classique pour La petite fabrique de mensonges et de la vérité, mais j'imagine que c'est aussi le texte qui fait que...
Absolument.
Voilà. Ouais. Ah ouais. Et plus puis, classique, plus, qui se rapproche plus du Moyen-Âge.
Des planches de croquis, des planches avec une envie de transmettre quand même peut-être des vérités dans les habits, dans les...
Alors, elle est très influencée, Lebrun, par la peinture flamande, par la peinture aussi de cette époque. Du 16e siècle, c'est un peu ce qu'on retrouve.
Tandis que pour Le Renard, c'est plus dessin animé, peut-être.
Oui, tout à fait. Les personnages sont peut-être plus caricaturés, mais à la fois aussi...
Bon, Laetitia me fait passer un petit papier en disant 10 sur 10, c'est parfait.
Un mot sur Jonathan Boussemard, dont on n'a pas parlé dans le des étonnantes aventures de Renard et les Engrins, qui est un illustrateur belge de Bruxelles, un jeune talent, qui allie vraiment l'illustration un petit peu à l'ancienne, la caricature à l'ancienne, et le burlesque un peu à la Gottlieb. Pour les amateurs de bande dessinée, moi je suis très influencé, j'ai toujours adoré Gottlieb, et il me rappelle un petit peu ce comique-là.
Un autre livre de Jean-Sébastien Blanc,
voilà,
c'est ça voilà. Heureux qui comme Ulysse ou Le premier voyage, et alors Ulysse c'est un chat.
Voilà, j'ai voulu en fait initier les lecteurs de cette collection originelle, Histoire d'en rêver, les 8-12 ans, à toutes ces légendes de la Méditerranée, toutes les légendes antiques ou les premier grand livre qui évoque la Méditerranée. Alors c'est l'Iliade et l'Odyssée, Jason et les Argonautes, Sinbad le marin, la mythologie grecque également. Et j'ai voulu montrer en fait que la Méditerranée était un carrefour de légendes. La reine de Saba, toutes ces légendes. Mmh. En un mot, donc je nous transporte avec le chat Ulysse au temps des Grecs. Et Ulysse va voyager sur la mer pendant 5 ans en découvrant tous les royaumes qui bordent la Méditerranée, mais aussi il va découvrir des pays fantastiques qui rappellent ceux de l'Iliade et l'Odyssée, ceux de Jason et les Argonautes. Donc c'est à la fois un roman fantastique et un roman un petit peu historique.
Puis le fait aussi que le début de l'histoire, c'est un chaton, oui. Et qu'après c'est un chat adulte qui a amagasiné toute son expérience de tous ses voyages.
Absolument. En fait, le deuxième objectif du roman, c'était de montrer que la vie est un voyage. C'est une sorte de parabole que je fais dans ce livre. Et que tout au long de la vie, on découvre, on apprend. Et Ulysse, pendant son voyage, va faire l'expérience de tout ce qui fait la vie. Le bonheur, le malheur, la tristesse, la trahison, les joies. Et lorsqu'il revient, ce qu'il a vraiment découvert, c'est lui-même à travers ce voyage.
Et alors là, tu travailles avec une autre illustratrice
Un illustrateur. Voilà, qui s'appelle Sébastien Giacobino, donc qui est vraiment un illustrateur très porté sur les romans illustrés historiques, qui a fait beaucoup de choses, notamment sur les croisades. Et voilà, donc là, il était très intéressé par ce projet. Et on a très très bien fonctionné ensemble et j'espère qu'on travaillera ensemble parce que c'était vraiment, vraiment agréable et il a vraiment bien compris et illustré le...
Et toujours 8-12 ans.
Oui, on va dire plutôt 10-12 ans.
10-12 ans.
10-12 ans.
D'accord. Et puis alors un petit livre qui m'a accroché, toujours Jean-Sébastien Blanc, « Ils ne sont pas comme nous ». Donc là, c'est un livre un petit peu plus difficile. C'est peut-être pour les 12-15 ans.
C'est ça. Hein, plutôt même 15-17 ans, on va dire.
15-17 ans. Alors, vas-y, dis-moi.
Alors,
dis-moi.
Donc c'est un livre qui inaugure une autre collection qui s'appelle « Histoire d'en penser », destinée donc plutôt aux 15-17 ans. C'est un livre que j'ai porté, à titre personnel, très longtemps, pendant plus de 20 ans, en attendant que je le publie. Et que je destine aux élèves notamment de 3e, il est beaucoup diffusé aussi en CDI, en collège, qui donc en fait rappelle la tragédie qui a touché les malades mentaux dans l'Allemagne nazie, qui ont été exterminés dans le cadre d'un programme que les nazis appelaient le programme T4. J'ai raconté la vie au jour le jour d'un narrateur, d'un patient de d'un asile.
Et le point de vue de l'allégorie. Hein.
Donc au travers de cette narration de ce patient qui va être lui-même exterminé, on comprend que se trame une tragédie, puisque d'autres fous vont exterminer ces entre guillemets fous-là, et ces autres fous sont les nazis. Donc ce que j'ai voulu mettre en relief la véritable folie et montrer que la véritable folie était plutôt du côté nazi. Et peut-être du côté du genre humain. Et j'ai vraiment voulu m'interroger sur comment une nation civilisée qui a 2000 ans d'histoire et de progrès moral en arrive à retomber très brutalement dans la pire des barbaries de l'histoire de l'humanité. Quoi.
D'accord. Donc un État et toute la société mis au service de la barbarie.
Voilà. Parce que ça s'interroge non seulement sur un groupe d'individus, les nazis, mais aussi tous les peuples... qui se sont mis au service par leur passivité, ça touche aussi la France, tous les pays occupés qui ont collaboré. Comment est-ce que, face à une telle barbarie, on signe des décrets au nom de l'État, parce que c'est la loi, et que ces signatures de décrets envoient des milliers de gens à la mort, quoi.
Et alors, c'est illustré par un graphisme fantastique de José Ignacio Fernandez, qui est tout à fait particulière. Hein. C'est des photos...
Alors, c'est des photos montées. Ouais, hein. Des photos montages en couleur sépia. On a essayé de rendre un peu burlesque, enfin, pas burlesque, mais plutôt grotesque, les personnages, et surtout les nazis, en leur donnant un aspect clownesque, mais en même temps très dérangeant. Et on essayait de montrer que la véritable folie, donc, comme je disais tout à l'heure, se situe plutôt chez les nazis. Et le graphisme essaye d'appuyer ça. C'est vraiment un côté très décalé qui fonctionne, je crois, plutôt bien. Parfois, ça dérange. Il y a une petite frange du lectorat qui est parfois un peu oppressée. Majoritairement...
Ah, c'est pour ça, quand même.
Oui, oui, c'est ça. Ça doit déranger. Hein. C'est un livre qui essaie de...
Si ça ne dérange pas, c'est que le but n'est pas atteint, quand même.
Absolument. On essaie vraiment d'interpeller.
C'est un beau petit livre.
Oui, court.
Voilà, court, mais bon, c'était une petite fable comme ça.
Enfin, oui, il y a un côté. Si, c'est vrai. C'est une sorte de fable, mais en prose et en nouvelle.
Quels sont les projets?
Alors, grand projet d'Alzaban Édition, c'est le numérique.
Ah oui, que le numérique, hein, parce que.
Oui, le multimédia, en fait. Hein, en fait, on a eu toute une année de réflexion par rapport à ça. Toute l'année 2009, toute l'année 2010, on s'est interrogé sur ce que une maison d'édition jeunesse pouvait proposer à un lectorat jeunesse via le numérique, via les tablettes. Et on s'est dit qu'en fait, c'était pas seulement le numérique, mais c'était tout le multimédia qu'il fallait reproposer. Donc, on va proposer des livres animés et enrichis, comme on dit. C'est un terme très moche, mais bon, pour l'instant, il n'y a que ça.
On peut lire le livre donc sur les tablettes.
Voilà.
Mais en plus, on t'apporte une dimension supplémentaire.
Absolument.
Donc, deux dimensions supplémentaires, l'audio.
Et la vidéo.
Et la vidéo.
Même trois dimensions.
Et la vidéo elle-même est multidirectionnelle. C'est-à-dire, tu peux zoomer sur une image.
Voilà, on va pouvoir soi-même zoomer sur les illustrations, mais parallèlement, dans le cadre d'un conte automatique, c'est-à-dire si l'enfant veut écouter tout simplement et visionner le conte, il verra les animations mises en vie avec des zooms. On est entre le livre d'illustration et le dessin animé, c'est-à-dire qu'on ne triture pas l'illustration non plus, mais on la met en vie, on évite qu'elle soit statique, pendant que se déroule un conte audio avec des acteurs qui lisent le texte, qui jouent le texte.
Et en plusieurs langues, tu m'as dit.
Alors, ça aussi, c'est une dimension des applications, c'est-à-dire qu'on va proposer pour chaque livre au moins 3 langues.
Donc, tu choisis au départ...
Voilà, on choisit français, espagnol, voilà. Anglais. Il y aura d'autres langues au fur et à mesure des années qui vont venir. On enrichira avec l'italien, le chinois, d'autres langues. Les applications numériques sont, de manière innée, internationales. Donc, on a voulu coller à ça ce caractère totalement international, casser complètement l'aspect franco-français d'un livre et donc inscrire ces applications dans le village global, le monde entier. Quoi.
Le premier livre, ça sera lequel ?
Alors, par clin d'œil, on a voulu faire un livre ex nihilo, c'est-à-dire qui n'existe pas. On a même envisagé de ne le faire que pour cette tablette. Hein, et finalement, il sera quand même décliné en livre, et non seulement en livre, mais en livre CD.
D'accord.
Donc, il s'appellera Le lion qui ne savait pas chasser. Et c'est un conte assez comique qui mentionne un lion complètement stupide, incapable de chasser et qui devint pourtant le roi des animaux.
Bien, bien, bien. Laetitia, est-ce que vous travaillez à l'ordinateur ?
Alors, je travaille à l'ordinateur quand j'ai ma casquette de graphiste.
Oui.
Par contre, quand je fais de l'illustration, c'est vrai que mon vrai plaisir, c'est de revenir à des techniques beaucoup plus traditionnelles et presque désuètes maintenant, parce que Diapason, j'avais commencé à le travailler en sérigraphie, qui est un procédé d'impression qu'utilisait notamment Andy Warhol. Et voilà, il y a vraiment le travail de la matière, il y a vraiment... On revient avec des outils un peu précaires, enfin, il y a vraiment... Et c'est pas du tout le même travail, parce que du coup, il y a une sensibilité autre que l'ordinateur, même si aujourd'hui... Enfin, à l'ordi, on parlait tout à l'heure de votre livre, justement, ils ne sont pas comme nous. C'est un travail fait par ordinateur, mais qui est excessivement sensible. Et c'est vrai que maintenant, les logiciels informatiques permettent une sensibilité qui est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien remettre les mains dans des pigments, refaire ma petite popote. Je crois que les illustrateurs sont souvent cuisiniers parce qu'il y a une vraie corrélation en fait, entre la patouille de la peinture et refaire des sauces.
On ne peut plus l'arrêter maintenant. Enfin, ça y est. Bon, bah, écoutez, merci, c'est gentil. Et Jean-Sébastien, tu voulais dire autre chose ?
Non, mais c'est très intéressant. Moi, je suis absorbé en ce moment par ces histoires d'évolution du livre et notamment sur les formats numériques. Et tu ne m'as pas posé la question et ça me fait plaisir. Et je m'aperçois que finalement, on pose peu cette question et c'est plutôt bien. Et cette question, c'est est-ce que le livre numérique va tuer le livre papier ?
Je vais pas te la poser, écoute, franchement, mais non, c'est une question ridicule.
Mais c'est très étonnant parce que moi j'ai vécu comme journaliste de presse écrite il y a 10 ans ce passage du magazine papier au site internet. J'ai vécu ce moment où tous les journalistes se disaient mais les sites internet, ça va nous tuer. Et j'ai constaté qu'on a vraiment, semble-t-il, dépassé ce cap aujourd'hui avec l'apparition du livre numérique où je crois que tout le monde est à peu près rassuré, se dit, bon, les sites internet n'ont pas tué nos papiers, nos journaux.
Les parents ne sont pas rassurés, mais enfin, bon.
Ah oui ?
Oui, parce que les enfants qui sont sur les tablettes toute la journée...
Non, alors le problème, c'est que sur les tablettes aujourd'hui, on n'a pas de livres. Il faut quand même le dire, pour les enfants, on a très peu de livres, vraiment avec une offre de livres enrichis, de livres intéressants. Les tablettes concernent plutôt des livres d'adultes et encore sont juste les livres de texte. Pour les enfants, c'est en France totalement...
La seule chose, c'est que les enfants, ils regardent des livres, par exemple, sur l'iPod.
Ouais. Hein,
donc c'est vraiment le petit, tu vois, le tout petit écran. Et
je pense que c'est un mauvais format.
iPhone,
tous les smartphones sont encore des formats assez inadaptés.
Pour lire, par exemple, le soir sous les couvertures, c'est bien plus pratique que l'iPad.
Ceci dit, c'est pas très grand, un iPad. On peut se le planquer sous un oreiller très facilement.
Écoute, en tant que parent, je le sais. Bien, 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 l'émission se termine. Je recevais Jean-Sébastien Blanc qui dirige les éditions Alzaban. Et puis je recevais également Laetitia Devernay, auteure et illustratrice d'un livre qui s'appelle Diapason. Merci Jean-Sébastien.
Merci beaucoup.
Merci Laetitia.
Merci.
À la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir.
Le lire et le dire.
Une émission décalée.
Une émission humoristique.